Thank you. Frère Elsa, oui, priez pour moi. Et merci, merci pour Hélène pour ce temps que tu dis ce que le Seigneur voulait nous dire par les chants, au travers de ce chant, comme un souffle fragile, ta parole se donne. Et je n'aime pas le faire, et toute ma vie, j'ai toujours dit, je ne fais que des exhortations, je ne fais pas de prédication. Et pour la première fois, je vais dire que c'est une prédication, parce que j'ai dit au pasteur, si tu peux relire ce que je vais dire. Mais qui sommes-nous? Parce que la parole, il est dit dans la parole, personne n'enseignera son prochain, parce que vous l'aurez par le Saint-Esprit dans votre cœur. Alors, nous pouvons juste dire un humble canal, de dire dans nos réflexions. Et quelle responsabilité, il est aussi dit dans Jacques, il n'y a pas beaucoup d'enseignants, parce que celui qui enseigne, évidemment, il enseigne. Donc, je me sens, voilà, je suis un peu tremblant, mais en disant, voilà, que écouter la parole et surtout que chacun cherche dans la parole la vérité. La parole est une lampe à mes pieds. Elle n'est pas la parole, donc c'est juste de relire, parce que la vraie parole, c'est la parole que Dieu nous a laissée. Mais donc, le thème du sel, donc, c'est la justice, ça se pratique, pour nous encourager à pratiquer la justice envers les plus pauvres. Voilà, très concret. Donc, il y a pas une partie que je me suis appuyé sur ce que le sel proposait, sur qu'est-ce qu'on peut faire, nous, chrétiens, pour mettre en pratique. Et puis, on va le faire derrière, dans l'action. Mais, du coup, c'est ça le problème de celui qui doit amener la prédication, qui réfléchit. Évidemment, ça nous amène à réfléchir au but personnel. C'est quoi la justice? Et du coup, une partie qui était, voilà, c'est toujours, c'est peut-être une réflexion philosophique en m'appuyant sur la Bible, mais c'est quoi? Et finalement, ça m'a amené dans beaucoup de choses, mais que je vous propose de vous partager ma réflexion en 5 points qui sont en s'appuyant sur ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu, et à vous de l'examiner pour vous demander si c'est vraiment le message, et que ça soit Saint-Esprit, c'est tout ça qui est important. Que veut nous dire Jésus? Que veut nous dire la parole? Alors, si tu veux bien, Jean, la première partie, c'est la justice des hommes. Le deuxième point, c'est quoi la justice des hommes? C'est quoi la justice de Dieu, la justice divine? Et puis, moi, je vais parler de la justice de Jésus-Christ, la justice via Jésus-Christ. Pourquoi ça change tout? Et comment pratiquer la justice? Alors, ce premier point, justice des hommes, m'a pu s'amener dans une réflexion de chercher dans le dictionnaire, celui-ci en plus, c'est le petit Robert. Voici une définition du petit Robert. La justice, juste appréciation, reconnaissance et respect des droits et du mérite de chacun. Synonyme, droiture, équité, impartialité, intégrité. Et le second, principe moral de conformité au droit. Donc, on voit quand même que ce mot justice est indissociable de la loi. L'un, c'est les droits, la justice, c'est la reconnaissance des droits, de la loi, de l'émission de loi qui est là. Mais quelle loi? Quelle loi? La loi des hommes? Oui, nous vivons sous des lois établies par nos gouvernants, mais aussi des lois qui sont établies par nos usages, nos mœurs, notre culture, je dirais par nos amis, nos familles. Clairement, on réalise vite quand on plonge dans cette notion de loi qu'elle est différente pour chaque culture, mais pour chaque personne. Ce qui semble juste pour l'un semble injuste pour l'autre. Vous le savez bien, même selon les lois des pays, n'est-ce pas? Et les définitions ne sont même pas du tout les mêmes. Cela, tant et si bien qu'on comprend que on juge, mais on juge les autres par notre jugement selon nos propres valeurs établies, qui sont fortes, nos valeurs, qui peuvent être une valeur d'un système ou de notre propre religion, et ça a la valeur à nos yeux. Finalement, en creusant, ça me faisait un peu le tour tourner en disant, est-ce que finalement, en voyant le comportement que nous avons, nous ne sommes pas la plupart du temps dans cette question de ce qui nous semble juste, ce qui nous semble injuste. Particulièrement, nous sommes toujours en train de dire ceci est juste, ceci n'est pas juste. Moi, le voyez, du coup, le pouvoir, je venais avec ça. Je dis, je ne suis pas d'accord, je trouve ça injuste. Ça veut dire que je ne suis pas d'accord, parce que pour moi, c'est ça qui est juste. Et pourquoi c'est ça qui est juste? Donc, il semble que ce besoin de justice soit très important pour les hommes. Réfléchissez pour vous, est-ce que ce sentiment de justice n'est plutôt, c'est le sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice est ancré en nous dès la plus tendre enfance. Il suffit de compter le nombre de fois où l'enfant, quand il va avoir une certaine manière, il dit, c'est pas juste. C'est pas juste ce que tu fais à mon frère, à ma sœur. Et souvenez-vous, avec Cain, dès le début, c'est pas juste, c'est une question d'injustice. Mais on dit que c'est les enfants. Mais c'est des adultes. Nous sommes façonnés comme ça. Ça nous amène à la psychologie humaine, finalement, en permanence. Nous sommes dire c'est juste et c'est pas juste. Quelle foi. Comme dit le théologien anglican Wright, c'est le slide suivant, qui dit il y a un cri pour la justice qui sort de nos cœurs. Quelque chose qui sort. On veut la justice. Mais on l'entend de partout. Que ce soit pour les retraites maintenant, que ce soit pour les gens qui sont pauvres en Afrique, que ce soit pour ceux à qui on a fait du mal. Et malheureusement, il y a beaucoup de souffrance, on dit c'est injuste. Et après, on va dire, bah oui, c'est vraiment ce que tu as vécu, c'est injuste. Et c'est un cri pour nous, et aussi pour tous ceux qui sont autour de nous, en particulier, qui subissent l'injustice, c'est aussi le plus silencieux de ceux qui font face à la pauvreté. Oui, c'est pas juste. Pourquoi tu n'es rien et que moi j'ai tout, ou j'ai beaucoup, et que c'est juste. C'est vraiment une question d'injustice pour la justice. Si tu peux mettre le slide suivant, de quelle pauvreté parle-t-on? C'est quoi la pauvreté? Oui, nous sommes pauvres. La pauvreté. Non, c'est la pauvreté. Ah, peut-être pas, excuse-moi. De quelle pauvreté parle-t-on? Et puis Jésus, il chante pour le monde, c'est un monde il dit heureux les pauvres, car ils seront consolés. Heureux les pauvres, ils seront consolés. Mais c'est quelle pauvreté? Du coup, bien sûr, c'est la pauvreté matérielle. Est-ce que vous donnez celle? Pourquoi je n'ai pas les moyens? Je suis né dans cette famille, je n'ai pas les moyens, c'est totalement injuste. Pourquoi la pauvreté relationnelle? Pourquoi je suis seul, sans personne, sans amis, sans famille? Pourquoi je me trouve dans cette situation? Non, pourquoi je suis seul? Pourquoi pauvreté existentielle? À un moment de nos vies où, bien sûr, ben je comprends pas, je suis mal de la vie, je me sens, ben, je comprends pas le sens de la vie. Hein, même le prophète, va sentir cela, pauvreté spirituelle, et pas d'espérance. C'est sans doute toutes ces pauvretés que nous vivons, ou que nous côtoyons, et on dit c'est pas juste, et du coup, on a compris qu'il y a beaucoup de justice chez les hommes, de la justice pénale, parce que oui, l'homme ne peut pas vivre sans une justice pénale, parce qu'il y a des choses, on va dire non, tu ne tueras pas ton prochain, et si tu fais comme ça, tu continues à tuer, tu ne feras pas telle chose, tu ne voleras pas, justice pénale, mais il y a une justice sociale, manifestement, où on veut cette égalité, qui est le cri du cœur de l'être humain, soit qui se sent lésé, soit qui voit l'injustice chez les autres, et une justice populaire. Et c'est bien en France, parce qu'on a un magnifique slogan de liberté, d'égalité, fraternité, n'est-ce pas? C'est la justice que l'on voudrait, la justice. En fait, on peut mobiliser toutes ces définitions, et du coup, notre vie est bien souvent gâchée par ce sentiment d'injustice. Notre vie est souvent gâchée par ce sentiment d'injustice. Peut-être est-ce pour cela Jésus, que vous connaissez si bien, nous dit, ne jugez point Ça, on prépare en remettant ce matin, regardez, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Merci, quelle souffrance. Car on vous jugera donc du jugement dont vous jugerez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc, cette mesure de la justice et de la loi ne fait qu'accabler l'homme, et l'homme grandissant, l'homme adulte, dans cette souffrance. Parce que nous sommes dans un monde injuste. Parce que c'est depuis qu'il connaît l'arbre de la vie du bien et du mal. C'est ça que je veux dire au début de la Genèse. L'homme a voulu savoir, alors il sait, et il voit, et il voit que c'est injuste. Voilà, voilà pour la justice des hommes, et on se conduit cette ligne. Et la justice de Dieu, c'est quoi? Bien. Que dit la Bible sur la justice? Alors, du coup, la Bible parle beaucoup de la justice de Dieu. Voilà. Prenons, nous n'aimons pas premier verset, psaume 89, 15, la justice et l'équité sont la base de ton trône. La justice est une des caractéristiques de Dieu. Juste pour dire, ça m'a beaucoup surpris, même quand je l'ai lu là. Le mot justice est employé 1478 fois, 1081 fois dans l'Ancien Testament et 397 dans le Nouveau. Alors je pensais que c'était la presse, mais on dit 1365 fois. Là, on perd. Et l'amour qui voyage entre 400 et 500 fois. 1500 fois. Dieu est justice. Les psaumes nous le disent. Psaume 89,15. Et les biotiques, en compte en 1942. Ta justice est justice éternelle et ta loi est vérité. Donc, Dieu, la caractéristique de Dieu, c'est la justice. Nous trouvons tout injuste, nous voulons la justice, mais Dieu est justice. Mais nous n'aimons pas parler de cette justice. Car cela renvoie au jugement. Parce que qui dit justice, même dans les hommes, on pense que cette justice est un tribunal qui rend un jugement. Et nous savons que ça nous renvoie à la punition. À la punition, alors on ne peut pas parler de la punition, mais la Bible est claire de la punition des hommes. Et ça nous amène à la notion d'enfer et de paradis. Et nous nous éloignons quand nous disons, on aime bien dire Dieu est amour, on aime pas dire Dieu est justice. Oui, mais Dieu est vérité. La parole de Dieu est vérité. Donc, voyons ce que nous dit la parole de Dieu. Il dit Dieu est justice. Et cette justice est éternelle. Et puisque Dieu, si nous l'avons cru en lui, a créé le monde, il est le juste juge de la terre et il se manifestera au jour du jugement dernier pour juger les vivants et les morts. Et il est dit selon son cédat. Oui, ça nous fait peur, mais nous devons réaliser que chacune de choses, chacune de nos paroles, c'est comme si elles étaient enregistrées sur un livre. Et il y a tout le record de tout ça, de nos vies. Et alors, quand on pense à ça, on peut déprimer. Et c'est ça, le truc. D'ailleurs, donc pour vivre, on a d'abord Dieu qui veut se révéler à l'homme, qui trouve cette justice. C'est comme vous le savez, pour nous qui avons cru à la Bible comme la parole de Dieu, il envoie d'abord à l'homme la loi au peuple élu, le peuple d'Israël, le peuple élu. Et il dit, je vais lui donner une loi, la Torah, les cinq premiers livres, qui est un livre extrêmement précis pour pratiquer la justice. La loi où il encourage clairement, quand il le donne à Moïse, pour la première fois, Dieu se révèle à un homme en disant, mais voilà la loi que tu dois suivre, et il donne la règle. C'est quoi la justice? Pour nous, Deutéronome 6, 25. Voici ce qui est donné avec la loi. Pour nous, la justice sera d'observer et de mettre en pratique tous ses commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a commandé. Voilà ce qu'est la justice. Alors nous ne savions pas ce qu'était la loi, mais voilà maintenant où la loi est donnée aux hommes. Pas à nous directement, au peuple d'Israël, au peuple élu, pour que toute la terre voit la gloire de Dieu en suivant cette loi. Il voulait que tout ça, c'était le plan de Dieu. Mais on s'aperçoit vite dans l'Ancien Testament que cette loi, elle a ses limites. Elle a les limites de l'homme. Les prophètes, ils sont là pour avertir sans cesse. Non, vous dérapez de la loi. Ils rappellent la justice de Dieu, les prophètes, ils avertissent. Et finalement, ils avertissent qu'on réalise que ce n'est pas possible, c'est même une catastrophe. Ce qui va se passer dans le peuple d'Israël, ils vont finir par presque s'entretuer, ils vont adorer d'autres dieux, ils vont sacrifier des enfants avant qu'ils trouvent un roi, ils vont attendre qu'ils trouvent un roi, on va dire ça. Et David, qui a l'onction, la liquidité, mais voilà, ce peuple s'égare. Et ça, les prophètes le disent, on s'aperçoit, ce ne sont pas, les prophètes se rendent bien compte que l'homme ne cesse d'enfreindre la loi. La loi, je sais pourquoi, donc, ils vont utiliser dimanche sur cette question de la loi, de la religion. Le problème, c'est que la loi ne met en évidence le péché. La loi met en évidence nos infractions. La loi, et il donne comment ça faire. Voilà. Et donc, ça nous met sur le jugement. Le jugement. C'est ce que nous dit bien déjà le prophète Michée. Donc, merci Hélène, Michée 6-8. Mais moi, je voudrais lire Michée, ce qui est écrit juste avant 6-8. Je ne vais pas le lire. 6-8. C'est déjà dit au peuple d'Israël, en 6-8. L'Éternel, alors qu'ils ont la loi, alors qu'on leur dit, vous savez, pour enlever vos péchés, il faut des béliers, il faut mettre le sang sur les béliers. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que l'Éternel avait des milliers de béliers? Des myriades, moi j'en mettrai des milliers de béliers, pardon, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Avec quoi? Pour ce pardon de nos péchés, avec quoi me présenterai-je? Avec des holocaustes, avec des bouts de un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de corbeaux? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Ce qu'ils demandaient à un moment, et est-ce qu'à un moment, il y en a, ils ont jusqu'à donner leur enfant pour le péché de mon âme, puis les entrailles, ont pas fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes dans ses rapports, et que tu marches avec le monde. Frères et sœurs, bien sûr, c'est pour le message au peuple d'Israël, mais on sent déjà ce qui est important. Ce verset est important pour moi. Pour moi, il est très important. Il a changé nos vies, et comme ça, nous sommes engagés pour le faire, parce que c'est quoi que devant l'Éternel? Et tu as pas de dire, que ferais-je pour ce que tu as fait pour moi? L'Éternel me répondait sans cesse. Je veux que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement. C'est quoi ça? C'est quoi? Jésus va être encore plus impitoyable, surtout vis-à-vis des chefs religieux qui mettent en place la loi. Parce que dans Matthieu 23, 23, il accuse les chefs religieux d'oublier ce qui est important. Ils veulent appliquer la loi, mais à nouveau. Et lui, il va très loin. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme et la menthe, la nef, du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. C'est quoi le plus important? La justice, la miséricorde, la fidélité. La justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans regarder les autres choses utiles. C'est-à-dire qu'il faut oublier là, c'est ça qui est important. Et bien sûr, on le voit dans plein de choses quand j'ai vu parler d'ailleurs. Que ce soit quand tu parles aux antiques, que le premier qui a celui qui a compris, je me suis dit, c'était pas dans mon texte. Je reviens. Mais c'est ça, ça rejoint un peu ce que nous dit Jacques 1,27. La religion pure et mentale devant Dieu, notre Père, consiste à limiter les orphelins et les veuves dans leurs affections et à se préserver des souillures du monde. C'est quoi que nous ferons? Se préserver des souillures du monde et visiter. C'est ça la religion. Le problème, c'est que la religion nous donne une loi et que la loi nous donne en fait une condamnation. Et alors justement, je ne sais pas pourquoi Yvon avait ça sur le cœur, parce que je le vois vous expliquer que la religion, c'est difficile à comprendre. Est-ce que nous sommes une religion? Et la religion, toutes les religions m'ont cherché de trouver à donner une loi pour ne pas pécher. Et ça mène toujours à la catastrophe. Livré à sa loi de la chair, l'homme ne peut pas s'en sortir seul. Et la loi ne fait que l'accabler plus. Il en est de la justice parfaite comme du péché. On ne peut pas s'en sortir seul. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas pratiquer la justice. Donc avant de dire comment on peut faire, que ça voulait vraiment compter ceci, on ne peut pas s'en sortir seul si Jésus ne fait pas de nous son nouvelle créature inhabituelle. C'est ça le message. Or ce message, il était déjà dans l'Ancien Testament, je voulais juste ressentir Ézéchiel 36, 26, 27. Voilà, on a la réponse. Déjà cette vision d'Ézéchiel au peuple. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez pratiquer mes lois. Et vous le savez. Vous êtes ici, ceux qui ne savent pas ce message, c'est ça que Jésus veut nous changer nos cœurs. Par nous, on ne peut pas s'en sortir. Ce qui m'amène au troisième point de la justice par Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ, face à notre péché, à notre désobéissance à Dieu, mise en lumière par la loi, nous savons que nous méritons la mort, nous le savons. Et nous serons jugés coupables pour tous nos actes devant Dieu au jugement dernier, s'il en était ainsi. Romains 3, 23. Par tous, ont péché et sont trouvés. Mais le verset continue. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption de Jésus-Christ. La rédemption. Oui, je promets quand notre sœur, il parlait tout le temps, et elle a mis sa vie sous le cœur du monde de la rédemption. Elle cherchait toute sa vie, tout ça voulait dire. Et ça a amené, pour moi, à avoir un pasteur qui a conduit un grand réveil aux États-Unis, Jonathan Edwards. Et elle a tous les livres de l'histoire de l'œuvre de la rédemption. Le plan de Dieu, c'est la rédemption. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Le moyen de la rédemption de Jésus-Christ. Ainsi, l'évangile de Christ n'est pas une religion. Oui, les hommes, bien souvent, ont fait des religions. Religion qui a caché le message de l'évangile. C'est une libération de la puissance du péché par la sacrifice de Jésus. C'est une libération du péché. Ce n'est pas l'homme, une de ces phrases, qui se réconcilie avec Dieu en obéissant à la loi. Non, c'est bien Dieu qui se réconcilie avec nous en mettant la faute sur son Fils bien-aimé. Frères et sœurs, comme Dieu nous l'a révélé, le juste jugement de Dieu a déjà été rendu en le faisant porter, comme vous savez, sur l'anneau sans tache Jésus. Nos péchés, et nous sommes ainsi trouvés justes devant Dieu. Donc la condamnation, la justice est rendue. Voilà, si vous ne connaissiez pas la justice de Dieu, elle était rendue grande et miséricordieuse, comme tous ces chants, nous chantons grande et miséricordieuse, la grâce. Voici ce que tout l'évangile veut nous annoncer, la justification par la foi, comme le dit Galates 2,16. La justification. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera pas les œuvres de la loi. Et nous voulons ajouter à la foi la loi. Mais si nous faisons ceci, nous ne reconnaissons pas la puissance accomplie du salut par la grâce. Voilà le message que le protestantisme a voulu dire quand on dit, voilà, nous sommes issus de ce mouvement protestant. Et le message du protestantisme, le Luther de Calvin, c'est de dire, non, sauvés par la grâce seule, non par la loi. Et c'est ça, ça fait toute la différence. Dieu veut changer nos cœurs imparfaits, il nous a sauvés comme vous le chantez si bien, comme on chante si bien. Nous pouvons maintenant marcher en nouveauté de vie. Rien de plus beau ne pouvait nous arriver. Rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que cela. Rien de plus grand. Oui, la deuxième chose, c'est de trouver un époux, un compagnon. La plus grande grâce, c'est cela. Il n'y a rien de plus beau. Si vous l'avez accepté, Jésus-Christ, il n'y a rien de plus beau. Parce qu'il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus précieux que vous pouvez sur cette terre. Donc, nous sommes vus justes. Malgré nos imperfections, nous sommes vus justes au travers du sacrifice de Jésus-Christ à Dieu notre Père comme un de ses enfants. Il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-là. Il n'y a pas de plus grand sacrifice. Il n'y a pas de plus grand sacrifice. Il n'y a pas de plus grand cadeau qui pouvait nous être offert. Il n'y a pas de plus grande révélation. Nous en sommes dépositaires. Nous sommes dépositaires à la succession des premiers disciples, de ceux qui ont fondé les églises, de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui sont morts en martyrs pour leur foi. Nous qui pouvons librement parler de Jésus, nous sommes dépositaires de quelque chose qui ne changera pas, le salut par la foi. Vase d'argile, je disais cette chanson. Vase d'argile pour une parole qui nous dépasse. Ainsi, ce n'est pas nous qui pouvons agir, c'est la parole de Dieu. Et comme disait dans la prière à frère ou sœur, mais qui leur parlera si nous ne parlons pas du message? Donc merci à vous qui parlez, à vos enfants, à vos familles. Il n'y a rien de plus grand que Jésus que vous pourrez connaître. Parce qu'il sera, il pense, il vous aime, il sera votre secours, il est votre sauveur. Voici l'évangile qui nous a été révélé par Jésus-Christ, par le moyen des apôtres et de sa parole. C'est inhabituel dans le, je l'avais mis, je voulais afficher ce verset Matthieu 22, l'expérience de la grâce, parce que de prendre un temps dans la prière pour recevoir l'amour qu'on a déjà dans nos cœurs, mais laisser Jésus déverser cet amour dans nous. Parce qu'il n'y a rien de plus grand. Et c'est vraiment une chose que j'avais à cœur qui est cet amour. Ce qu'il y a de plus important dans l'Église, c'est l'amour. Et Dieu nous dit à beaucoup de souffrance quand on est rentré ici, à toute raison. Le Seigneur a montré maintenant le temps de l'amour qu'il y a. Et Jésus, par son amour, n'est pas l'amour. Le temps de la réconciliation, le temps du pardon, le temps de l'amour. Jésus nous l'explique bien, c'est ça qu'il veut. Maître, quel est le plus grand des commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est Dieu, c'est impossible. Et souvent, nous sommes dans la souffrance aussi du jugement, de la critique du frère qui m'a fait mal ou de ma sœur. Il y a des choses. Mais Seigneur, maintenant que le pardon, que l'amour de Christ se déverse, il change nos cœurs de pierre. Et juste si on peut prier de laisser l'onction de Dieu se déverser sur nous par son amour. Car rien que ma vie. Seigneur, merci de déverser ton amour. Pardon, comment chanter tout à l'heure, pardon, de mes imperfections. pardon pour ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé. Et toi, Seigneur, tu pardonnes, tu m'as déjà pardonné. Et Seigneur, nous ne pouvons pas vivre. L'Église ne peut pas être un témoignage dans le monde. L'Église ne peut pas être un témoignage à Aubagne, dans les villages. Elle ne fait pas, c'est par nous. Et merci pour l'amour qui s'est manifesté, Seigneur. Oui, seulement des fois, demander pardon à quelqu'un qui nous a fait du mal. Et aussi, cette personne de réaliser qu'il nous a fait du mal. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui prends les blessures, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui veux faire du bien. Il y a plusieurs personnes qui souffrent dans cette assemblée et qui ont une blessure profonde dans leur cœur et qui ont besoin maintenant d'être restaurées et de dire oui, j'ai fait du mal. Oui, j'ai besoin, mais j'ai reçu la pente. J'ai reçu de Jésus qui me pense le cœur. Jésus t'aime, il veut te faire du bien. Pardon, mon frère, ma sœur, si j'ai fait du mal. Mais nous avons besoin, parce que Satan veut nous empêcher pour que ça ne soit pas un témoignage, mais avec l'amour de Christ. Seigneur, quel témoignage. Seigneur Jésus, viens dans nos cœurs. Et si toi, ce matin, tu n'avais pas compris ce salut, si tu ne connaissais pas ce message du salut, viens, demande à Jésus, il ouvre la porte à celui qui frappe. Seigneur, vraiment, mettons nos sciences sur nous, transforme-nous. Il n'y a rien de plus important. Tu aimeras le prochain comme nous. Ainsi sera juste. La justice de Dieu. Merci. Du coup, quand on a. Je voulais dire ce qu'était la justice. La vraie justice, c'est le sacrifice de Jésus pour nous à la croix, qui a pris notre condamnation. Je sais que ça vient vivement de se le rappeler. Et c'est cet évangile que nous prêchons, et pas un autre évangile. Mais maintenant que nous savons que ce ne sont pas par nos œuvres, ni par le respect de la loi que nous pouvons trouver juste devant Dieu, pratiquons le bien et la justice. Oui, c'est ce que demande Dieu. Visiter la veuve et l'orphelin. Pratiquons en toutes circonstances comme un témoignage de reconnaissance à celui qui nous a fait grâce. Comme il est dit, il nous faut trouver les œuvres qu'il a préparées d'avance. Oui, frères et sœurs, nous ne pourrons pas soulager toute la souffrance du monde tel est grand. Mais que Dieu nous conduise lui-même, qu'il guide nos pas, qu'il guide nos yeux vers celui qui a soif de Christ, de celui qui cherche la vraie pauvreté, pauvreté matérielle, pauvreté spirituelle. Comme dit Éphésiens 2, 10, Jean 6, Éphésiens 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà un peu. Faites le bien en toutes circonstances et cherchons ensemble les œuvres. On ne peut pas. Alors, on le voit dans la vie. Le bon samaritain, cette personne qui a côté, c'est elle vers Dieu qui me conduit, Jésus. Telle autre personne qui est dans une souffrance. Oui, cherchez autour de nous. L'expérience de la grâce transforme la manière et l'état d'esprit avec lesquels nous pratiquons la justice envers notre prochain, et en particulier les plus pauvres. Pour nous, nous vivons par la grâce. Galates 2, 20. Car j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. On l'a beaucoup dit, mais par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Si j'ai dit, nous ne pouvons pas, c'est bonne œuvre qu'il a préparée d'avance. Elles sont différentes. Ne regardez pas la justice des hommes, regardez la justice de Dieu qui nous aime. Les hommes sont imparfaits. Et même si vous regardez les hommes, oui, vous cherchez dans l'Église la perfection, vous ne la trouverez pas. Vous trouverez l'injustice, vous trouverez l'hypocrisie, le condamne. Mais nous nous remettons en question parce que le Seigneur veut nous transformer. Voilà la clé de la vie en Jésus-Christ. Donc, comment la pratique, c'est bien d'accomplir donc le commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que cela accomplit la loi. Cela accomplit le plan de Dieu. Alors, sur quelque chose, comment pratiquer la justice, le sel en donnait tellement, c'était ça, la liste est longue, parce que le monde est rempli de souffrance, le monde est rempli d'injustice, de pauvreté. Alors, on dit c'est une goutte d'eau, mais ça fait rien, c'est la goutte d'eau, c'est le bon samaritain qui était tombé, celui qui est là, celui qu'on croise, qui Dieu te guide dans la rue, ton voisin, ton boucher, celui que tu vois, celui qui vient chez toi, ta femme de ménage, ton ami et ton ennemi. Demandons à Dieu donc qu'il nous conduise par son esprit pour aller vers les œuvres préparées d'avant. Voici quelques exemples de nos saints de pratiquer la justice. En partageant, c'est évidemment la base, en partageant dans l'église des centres de Jérusalem, la première organisation est celle du partage, des repas, des biens, en fonction des besoins de chacun. Au-delà de l'idéal qui anime cette communauté, c'est bien les prémices de la diaconie. C'est vrai que l'entraide est née dans les églises, mais l'église n'a pas l'apanage, mais voilà, déjà dans l'église. Et donc c'est un petit peu ce qui doit être fait dans des œuvres que on pourra mettre en place au travers d'ALC, au travers des choses qui vont être faites, en posant des limites. Cela peut sembler étonnant, mais d'une manière de pratiquer la justice, c'est de poser des limites. Limite à l'endettement, dans sa durée, limite à la propriété, limite à l'esclavage. En fait, si vous réalisez, dans la loi de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y avait des limites. On redistribuait les terres. Il y avait une limite au temps d'esclavage. La part, Dieu avait vu une loi qui était bonne, en dénonçant l'injustice. Quand le droit des plus pauvres est bafoué, quand les peuples sont opprimés, quand le migrant n'est pas accueilli, quand la vie n'est pas respectée, oui, on peut crier l'injustice. Oui, ça peut être aussi notre rôle, hein, d'aider et de prier. Oui, il y a des choses injustes. En donnant à chacun une place. En conclusion, j'aimerais nous laisser que 2000 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, on pourrait se dire que c'est pas le plus important de pratiquer la justice et que tout cela a été mis, mais n'en rien être. Car ceci est le fondement même de nos vies transformées, pratiquer la justice. Et Jésus nous a donné donc ce commandement que je vous laisse en Jean 12:12. Voilà le programme divin. Quel commandement? Jean 12:12. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous aime. Et nous réalisons. Sans le salut, sans la communauté, nous ne pouvons pas être nous-mêmes. Mais voici la clé et la chose la plus importante. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous aime. Ce verset nous accompagne dans nos cœurs et nous transforme et que nous puissions méditer la parole pour qu'elle nous transforme de jour en jour. Je propose de chanter, c'est un chant.